C'est l'heure du journal avec vous Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration en Conseil des ministres actuellement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb parle de texte équilibré. La contrôleuse des prisons Adeline Hazan exprime ce matin ses vives inquiétudes pour les droits fondamentaux des personnes étrangères. Dossier suivi pour nous par Antoine Marette que nous retrouverons dans un instant. Laurent Wauquiez déclare assumer tous ses propos tenus devant des étudiants, sauf ceux sur Nicolas Sarkozy qui aurait fait écouter ses ministres. L'ancien ministre Stéphane Le Foll demande en tout cas à M. Wauquiez de dire la vérité sur ce point, nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Stéphane Robert. L'ancien ministre socialiste du budget, Jérôme Cahuzac, condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire dissimulé à l'étranger, sera finalement le 15 mai prochain s'il ira en prison. C'était le principal enjeu de son procès en appel, compte rendu de Florence Sturm. Le premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen qui révèle éprouver de la pitié pour sa fille Marine et qui réaffirme par ailleurs que le maréchal Pétain n'a pas failli à l'honneur en signant l'armistice en 1940, précision de Ludovic Piétenu. Et puis à l'étranger, la poursuite de ces raids syriens sur la Rota orientale depuis le lancement dimanche de cette grande campagne aérienne contre l'enclave où sont assiégés actuellement quelques 400 000 habitants. Il y a eu plus de 270 civils tués, dont 67 enfants. Analyse avec Nabila Hamel. À la fin de cette édition, l'invité de la séquence interview, Hugo Bernalicis, qui est député France Insoumise du Nord. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Puis on va prendre au mot le titre de cette journée spéciale, Asile, Immigration, l'heure de vérité. On va en parler de notre côté avec notre invité, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Didier Lesky, qui a par ailleurs beaucoup réfléchi à la question de la laïcité et de la place des religions ici en France, avec des ouvrages dont La laïcité au quotidien et Misère de l'islam de France, paru récemment sur le sujet.
En Conseil des ministres, donc, en ce moment, l'adoption de ce projet de loi Asile et immigration, défendu par le ministre de l'Intérieur, qui parle donc de texte équilibré, un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. C'est l'intitulé exact qui vise à réduire à 6 mois les délais d'instruction de la demande d'asile, à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Le Premier ministre Édouard Philippe disait hier que le texte s'inscrivait dans le cadre plus large d'une politique d'immigration et d'asile qui repose sur 2 principes, humanité et efficacité. En tout cas, le projet est très critiqué par les associations. Il fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté. Plusieurs acteurs de l'asile se sont mis en grève aujourd'hui. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais aussi la Cour nationale du droit d'asile, qui entame son 9e jour de grève. La contrôleuse des prisons ce matin, Adeline Hazan, qui exprime ses vives inquiétudes pour les droits fondamentaux des personnes étrangères, qui parle de net recul des libertés, qui va à l'encontre des préconisations du contrôleur général, en particulier sur la durée de rétention et le respect des droits de la défense. Donc, à l'heure de son adoption par le Conseil des ministres, il y a un rassemblement qui se tient en ce moment devant le Conseil d'État. Où vous vous trouvez, Antoine Marette ?
Effectivement, quelques centaines de personnes se trouvent actuellement devant le Conseil d'État. On peut voir notamment des banderoles de la CGT, d'autres de l'Association des avocats du droit d'asile. Maître Sani a revêtu pour l'occasion sa robe d'avocat. Ce qui la choque le plus dans le texte qui vient d'être présenté au Conseil des ministres, c'est la réduction des délais d'asile.
Ici, par exemple, on avait 1 mois pour faire le recours devant la Cour pour ceux qui étaient rejetés. Le projet de loi voudrait porter ce délai à 15 jours, sachant que ce sont des populations qui sont extrêmement vulnérables, dont certains sont à la rue. Donc 15 jours, c'est juste le délai d'instance à la poste et il ne sera pas rare que le recommandé avec notification de la décision de rejet soit reparti finalement à l'expéditeur lorsqu'ils se rendront chercher leur courrier. Donc là, ça pose une véritable difficulté. En plus, ce sont des gens qui ne lisent pas le français, donc ça fait beaucoup, beaucoup en pratique d'obstacles sur un délai de 15 jours qui va devenir quasiment finalement impossible à tenir.
Une autre mesure envisagée par le projet de loi, c'est l'augmentation de la durée maximale de rétention administrative pour les immigrés en situation irrégulière. Elle passerait de 45 à 90 jours. Sur la pancarte que porte Quentin, on peut voir les barreaux d'une prison et lire ces mots « prisonnier politique dans mon pays, demandeur d'asile en France ».
Pour moi, rétention peut être parallèle à la prison. Je trouve clairement que c'est un problème et c'est pour ça qu'on a fait ce parallèle, parce que la plupart des gens qui sont entendus en tant que demandeurs d'asile ont vécu la prison dans leur pays. Et la prison à l'arrivée en France, par défaut de papier par exemple, qui est une des dispositions, me paraît un petit peu limite.
Et parmi les manifestants, on trouve aussi des salariés de l'Office français des protections des réfugiés et apatrides, l'OFPRA qui n'a pas connu un tel mouvement de grève depuis 5 ans.
Merci beaucoup Antoine Maret, donc reportage devant le Conseil d'État en ce moment. À vos côtés, l'invité de la séquence interview, le député France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le gouvernement parle de texte équilibré. Est-ce que vous lui reprochez d'abord de ne pas assumer une politique de fermeté?
Jusqu'à présent, il avait affirmé, c'était d'ailleurs le mot-clé, hein, le slogan, c'était « fermeté et humanité ». Je vois qu'on est passé à « efficacité et humanité ». Non, en réalité, les mots ne veulent plus rien dire en la matière. Par contre, quand on rentre dans le détail du texte, on voit que c'est un durcissement des conditions d'asile et des conditions d'accueil des personnes migrantes. Voilà, ça a été clairement expliqué par les avocats, les personnels qui sont au quotidien à la manœuvre pour suivre ces dossiers de demande d'asile. Et on est dans une hypocrisie généralisée. Je vous prends l'exemple des 45 jours qui passent de durée de rétention administrative qui passent à 90 jours, voire même, vous regarderez ça dans le texte, jusqu'à 135 jours pour certains cas de figure. C'est, en réalité, quand on en parle avec les policiers, moi je suis allé en centre de rétention administratif lundi à Léquin, à côté de ma circonscription, les policiers ils sourient jaune parce que en fait les personnes qui restent aujourd'hui 45 jours en centre de rétention, c'est parce que on a des problèmes diplomatiques avec le pays dans lequel on est censé renvoyer les personnes, et finalement ces gens vont rester, ceux qui restaient 45 jours vont rester 90 jours et à la fin vont pas être expulsés. C'est pas ça qui va se passer, c'est qu'on les remet sur le trottoir et qui vont revenir probablement 2-3 mois plus tard lors d'un nouveau contrôle policier. On met énormément d'énergie, de moyens pour essayer d'expulser des gens, alors qu'on serait bien plus efficace à les accueillir avec humanité. Mais l'humanité, visiblement, tout le monde cherche après dans le texte de Gérard Collomb.
Hugo Bernalicis, merci. Vous restez avec nous donc pour la suite de cette édition. J'ajoute que le porte-parole des députés Front National, Sébastien Chenu, qui est aussi d'ailleurs député du Nord, dénonce lui une imposture. Il parle d'une petite loi de police administrative sans autorité, sans fermeté, sans vision, sans moyens. Montage en trompe-l'œil qui pourrait nous amener à dire aux Français, réveillez-vous, le gouvernement est en train d'organiser la subversion migratoire. Donc il y a plusieurs interprétations autour de ce texte. Et puis dans ce studio également, l'invité de la dernière partie de la Grande Table,
Oui, un autre équilibriste, Didier Lesquy, bonjour.
Bonjour.
L'équilibre est effectivement pas facile à trouver entre fermeté et humanisme ou humanité. Vous avez la crainte qu'avec ce texte, avec ce projet, la loi, ce nouveau projet de loi, la France bascule d'un côté ou de l'autre.
Je crois que l'honneur un peu de notre pays, c'est de faire du sujet de l'immigration une sorte de passion qu'on ne trouve pas ailleurs, et dans cette passion, les mots sont souvent très imprécis et les réalités dont on discute sont aussi très imprécises. Il faudrait reprendre très précisément qui demande l'asile en France et en quoi elles sont et qui fait partie de la migration légale. Je rappelle que on a 260 000 titres nouveaux en 2017, et on a à peu près une centaine de milliers de demandes d'asile, dont la majorité provient essentiellement des pays d'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Et l'autre partie importante, ce sont des demandes qui viennent de pays d'Europe, Albanie, Russie, Géorgie aujourd'hui, de manière très importante. Et donc, le débat se fait avec des images qu'on a en tête, qui sont tragiques, mais qui sont souvent de personnes qui, justement, ne viennent pas en France, en particulier les Syriens. Je rappelle que les Syriens, c'est la première nationalité aujourd'hui en errance à partir du conflit. Mais il n'y a eu que 5000 à peu près demandes de Syriens en France en 2017, comparé aux centaines de milliers qui ont été faites dans les autres pays d'Europe du Nord et d'Allemagne. Et donc la question se polarise par rapport à des personnes qui ne sont pas celles que...
Donc les critiques sont infondées ou tapent à côté, selon vous, du problème?
Écoutez, je pense que votre député Front National dit que c'est un texte technique.
France Insoumise. Front National.
France Insoumise dit que c'est un basculement des conditions
vous
d'accueil.
Faciliter la tâche.
Je crois que ça me paraît excessif de dire que c'est un basculement des conditions d'accueil. Je remarquerai du reste que l'honneur de la France, d'une certaine manière, c'est que on est le seul pays où il n'y a pas de texte de loi qui remette en cause les conditions d'accueil. Dans tous les autres pays d'Europe, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Norvège. Une des premières mesures qui a été prise en 2016 et aujourd'hui en 2017, et on va le voir peut-être encore avec l'accord gouvernemental, c'est de restreindre le rapprochement familial. Il n'y a rien de tel aujourd'hui proposé, par exemple, en France.
Voilà, on a tout le temps, tout à l'heure...
De continuer à marcher sur un fil.
À marcher sur ce fil. On vous retrouve donc pour la dernière partie de la Grande Table, Didier Leschi. Merci. L'opération de recensement des sans-abri à Paris, près de 3000 personnes sans-abri, comptabilisées donc dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Dans cette opération de recensement inédite en France, c'est ce qu'annonce Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris. L'affaire Wauquiez suite est sans doute pas encore fin, puisque le président de Les Républicains a parlé hier sur BFM TV de déchaînement médiatique totalement surréaliste. Il dit qu'il n'a pas de double langage, qu'il assume donc parfaitement l'ensemble des propos qui ont été tenus, sauf ceux sur Nicolas Sarkozy qui aurait fait, avait-il dit, donc écouter des ministres. Le député et ancien ministre Stéphane Le Foll demandait ce matin que Wauquiez dise sur ce point la vérité, c'était sur CNews.
Il a même été jusqu'à accuser un ancien président de la République d'avoir mis des ministres sur écoute. Il le dit à des jeunes dans une école. C'est passé complètement un peu en dessous de tous les sujets qui ont été traités.
Alors ?
Mais c'est d'une gravité extrême. Donc moi je demande à Laurent Wauquiez de nous dire s'il a dit la vérité. Parce que s'il a dit la vérité, c'est-à-dire qu'un président de la République écoute des ministres, on est dans une affaire qui dépasse l'anecdote, qui dépasse le mépris.
Vous voulez dire qu'il attaque là une institution ?
Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas ?
Stéphane Le Foll, donc, avec Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Alors, il est vrai que Laurent Wauquiez n'a pas été très clair sur ce point, de savoir s'il s'était excusé auprès de Nicolas Sarkozy pour avoir inventé ou bien révélé cette affaire d'écoute de ministres.
Non, il n'a pas été clair, effectivement, et on ne saura vraisemblablement jamais s'il y a eu, oui ou non, une surveillance organisée des mails et des SMS des ministres de Nicolas Sarkozy. Il faudrait pour ça que Sarkozy saisisse la justice, c'est peu probable, ou que quelqu'un d'autre ait intérêt aujourd'hui à touiller dans le marécage de ce qui se pratiquait du temps de l'ancien chef de l'État. Tout ça paraît très hypothétique. Au-delà de ça, vous remarquerez que c'est la deuxième fois depuis hier soir que la question est posée de savoir si oui ou non Wauquiez dit la vérité. La journaliste de BFM, Ruth El-Krieff, lui a directement posé la question hier. C'est du bullshit ou pas ce que vous racontez ? Ce matin, c'est Stéphane Le Foll. Laurent Wauquiez dit-il oui ou non la vérité ? Cette question risque désormais de lui revenir comme une rengaine. Ça peut vite devenir un problème pour Wauquiez. Et puis son autre problème, c'est Sarkozy. Sarkozy, que Wauquiez dit avoir regretté, d'avoir attaqué, à qui il a présenté des excuses. Et Sarkozy qui se lâche en privé, selon des propos rapportés ce matin par Le Canard enchaîné. Beaucoup me disaient que tu étais une grosse merde, aurait-il dit à Wauquiez. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. En réalité, depuis 2012, Nicolas Sarkozy a toujours été un obstacle pour ceux qui ont tenté de lui succéder. François Fillon et Jean-François Copé se sont affrontés et déchirés tandis que Sarkozy œuvrait dans l'ombre pour préparer son retour. Il a tenté d'empêcher l'organisation de la primaire pour s'imposer ensuite. Après la victoire de François Fillon, il a placé ses hommes à lui, notamment François Baroin. Et aujourd'hui, il est encore là. On l'a vu dîner avec Macron à l'Élysée, avec Gérald Darmanin à Bercy, montrant par là qu'il lui apportait son soutien. Et on a pu voir à cette occasion que Nicolas Sarkozy reste très influent, à droite, à travers en particulier la cacophonie sur l'appel ou non à la démission de Gérald Darmanin. Personne n'était du même avis chez les Républicains. Au-delà du fait qu'il est une sorte de statue du commandeur, Sarkozy conserve une forme de leadership chez les Républicains. Pour le dire autrement, Laurent Wauquiez n'a pour le moment que le titre de nouveau patron.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Bon, un tout petit mot là-dessus, peut-être Hugo Bernal ici, est-ce que, bon, pas vraiment sur ce qu'a dit Laurent Wauquiez, mais peut-être lorsqu'il parle des guignols d'En Marche qui auraient le petit doigt sur la couture, le fait qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs en France, le fait qu'il y aurait une dictature totale en France, est-ce que vous partagez ces avis, ces impressions de Laurent Wauquiez ?
Ce que je partage, c'est qu'effectivement, il y a un problème de positionnement de l'Assemblée nationale dans cette 5e République. On voit que les parlementaires sont relégués au rang d'aménagement à la marge des textes de l'exécutif qui sont passés en procédure accélérée systématique, tel un rouleau compresseur. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus dans un régime parlementaire. En France, on est vraiment dans un régime présidentiel qui ne s'assume pas en tant que tel, puisque la Constitution, normalement, consacre les pouvoirs à l'Assemblée nationale. Mais tout ça n'est que de façade. C'est ça qui nous avait d'ailleurs nous-mêmes amené à parler d'une 6e République pour tout remettre à plat. Donc moi, je n'ai pas envie que, parce que Laurent Wauquiez se laisse aller à des propos un peu outranciers, qu'on oublie qu'il y a un vrai débat sur la thématique. Mais après, moi, Laurent Wauquiez, ça me va très bien, hein, qu'il reste en place. C'est un parfait leader de l'opposition de droite. ce qui fait qu'il reste très bas dans les sondages, qu'il est inaudible, qu'il se discrédite lui-même, ce qui nous permet, nous, d'apparaître toujours et encore comme étant la première opposition dans ce pays.
Hugo Bernalicis, merci. Vous restez avec nous. On vous retrouve pour la séquence interview dans un petit moment. On parle maintenant de l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, qui avait été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire dissimulé à l'étranger. Eh bien, il saura le 15 mai prochain s'il ira ou non en prison. C'est en fait l'enjeu principal de ce procès en appel. Le parquet a requis ce matin la confirmation de la peine après les plaidoiries de la défense, qui ont notamment été assurées par Éric Dupond-Moretti. Florence Turm a suivi pour nous l'audience.
Une défense en 2 temps, portée d'abord par Jean-Alain Michel, l'avocat et ami. « Je vous ai maudit, monsieur Cahuzac, nous t'avons maudit, Jérôme. » Lui a choisi de raconter, sur le ton de la confidence et parfois avec un peu de grandiloquence, l'histoire de ce conte maudit, ce cancre-là qui va dévorer son âme. L'histoire de l'homme, le médecin et le parlementaire, co-rédacteur de la loi Evin, et celui qui a trahi l'autre, le Jérôme, mon ami. Mais aujourd'hui, poursuit l'avocat, la juste peine, c'est celle qui permet à un homme de se racheter. Hier, l'avocat général a requis 3 ans d'emprisonnement, sanction qui enverrait Jérôme Cahuzac derrière les barreaux, et c'est Éric Dupond-Moretti qui se lève à son tour pour combattre cette possibilité, le véritable enjeu de ce procès. Argument juridique où il décline la gravité intrinsèque de l'infraction, les références à d'autres affaires sanctionnées par du sursis, la rupture de l'équilibre social. Bien sûr, il est indispensable de faire de la morale publique, mais est-ce qu'on ne le rompt pas quand on décide de ne pas poursuivre Madame Bettencourt et ses 100 millions qui échappent au fisc? Habitué des prétoires et des plaidoiries qui résonnent parfois haut et fort dans les cours d'assises, Éric Dupond-Moretti continue d'une voix presque douce face aux magistrats professionnels. Il y a beaucoup de lâches là-dedans. Il est tout seul, Cahuzac, et ce n'est pas mon ami. Mais la prison, c'est quand il n'y a pas d'autre solution. Glisse au passage le risque suicidaire évoqué par l'expert psychiatre, balaye l'idée d'en faire un chantage, mais... « Je ne demande pas la lune », conclut Éric Dupond-Moretti. « Vous pouvez même aggraver la peine, mais je vous supplie de ne pas l'envoyer en prison. » À la fin de l'audience, Jérôme Cahuzac n'a pas dit un mot, mais il a longuement serré chacun de ses avocats dans ses bras.
Jean-Marie Le Pen publie le premier tome de ses mémoires. Il affirme éprouver de la pitié pour sa fille Marine. Elle vient de subir une présidentielle et législative décevante. Elle peine à faire sa rentrée. Le prochain congrès du FN s'annonce houleux. Elle est assez punie comme cela pour qu'on ne l'accable pas, affirme notamment M. Le Pen. Et puis sur la période de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Marie Le Pen affirme que le maréchal Pétain n'avait pas failli à l'honneur en signant l'armistice et que le général de Gaulle reste, je cite, « une horrible source de souffrance pour la France. J'ai partagé un temps, dit-il, l'idée répandue que la France avait besoin du glaive et du bouclier, mais j'ai compris à l'écoute de la radio de Londres qu'il fallait que de Gaulle abaissa Pétain pour monter lui-même, finalement, une certaine continuité dans la pensée de Jean-Marie Le Pen sur cette question. En tout cas, Ludovic Piétenu.
Oui, le surnom de Le Pen, c'est le menhir. Et normalement, comme tout monolithe, ça se polisse avec le temps. Lui, non. Ses opinions ont un mérite, la constance. De Gaulle n'avait pas une tête de héros, écrit-il. Un héros doit être beau, comme Saint-Michel ou le maréchal Pétain. Pétain, mon amour, on l'a compris, Jean-Marie Le Pen l'a dit en exclusivité à nos confrères de la chaîne Info.
Selon moi, le maréchal Pétain n'était pas un traître. Il fait partie, comme beaucoup de gens, de ceux qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour adoucir le sort d'une population qui était vaincue et occupée militairement. Je pense qu'il faudrait en effet, oui, pourquoi pas le réhabiliter, il le mérite. Le vainqueur de Verdun n'a pas commis, selon moi, d'actes contraires à l'honneur en ce qui concerne la France et son sort, voilà.
De sa naissance en 1928, son enfance bretonne à la Trinité-sur-Mer, son élection comme député en 56 sous l'étiquette Poujade, jusqu'à la création du FN en 72, Jean-Marie Le Pen se raconte un brin picaresque qu'il réécrit à sa façon ce bout d'histoire du XXe siècle. « Je me sens investi d'une mission de rectification », précise-t-il. Il n'y avait pas de torture quand il était para durant la guerre d'Algérie, entretenant toujours et encore plus la confusion. Qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Y figuraient les coups, la gégène, autrement dit la torture électrique, et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche à l'intégrité physique. Voici ce que contient ce premier tome, où il y a gégène, il y a du plaisir. Le tout en chantant, s'il vous plaît, Jean-Marie Le Pen l'écrit, je chante partout et de tout, avec la sortie des mémoires du père, le retour annoncé pour demain de la nièce Marion Maréchal, et puis la construction du parti Les Patriotes par l'ancien du FN Florian Philippot, Marine Le Pen, à quelques jours de son congrès, est cernée, si ce n'est par une chorale quasi familiale, Antoine, une véritable cacophonie.
Ludovic Piétenu, merci en tout cas. Louis Alliot, vice-président du Front National, juge pathétique l'aigreur de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de sa fille Marine. L'actualité internationale, toujours dominée par la guerre en Syrie, laquelle se déploie sur deux fronts principalement actuellement dans la région syrienne d'Afrine. D'abord, des milices pro-Assad sont entrées pour prêter main forte aux forces kurdes. L'offensive turque, elle, lancée contre cette enclave du nord de la Syrie le 20 janvier, se poursuit avec la même intensité. Pour l'instant, pas encore de nouvelles du front, sur ce front qui pourrait être l'ouverture d'un front entre la Syrie et la Turquie directe. Et puis, c'est la quatrième journée consécutive de bombardements pour les avions du régime de Damas qui larguent bombes et barils d'explosifs sur le fief rebelle de la Ghouta orientale près de la capitale. Depuis le début dimanche de cette campagne aérienne contre l'enclave, rappelons que quelques 400 000 personnes y sont encore assiégées. Il y a plus de 270 victimes, selon l'Office central syrien des droits de l'homme. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Question, que fait Assad? Est-ce que ces bombardements sont le prélude à un assaut terrestre?
C'est le même scénario qui a prévalu lorsque Damas a repris le contrôle d'autres villes, sauf que les forces syriennes qui se préparent donc à une action militaire terrestre d'envergure et imminente font mine de ne pas entendre les multiples appels à l'aide humanitaire lancé ces derniers jours. Le conflit syrien franchira en mars le seuil des 7 ans et le régime de Bachar el-Assad semble être décidé à montrer qu'il pourra rapidement avoir raison du dernier fief rebelle aussi proche de la capitale. La Ghouta est assiégée depuis 2013. Plusieurs groupes islamistes contrôlent la ville. Damas les accuse de tirer des obus sur des quartiers résidentiels, des hôtels de la capitale et un organisme russe. La Ghouta est censée faire partie des zones de désescalade. Or, l'escalade depuis dimanche a fait, vous le disiez, 270 morts, des civils surtout. Les hôpitaux sont bombardés et la population est réduite à se terrer dans les caves. Un cataclysme, le mot a été lâché hier par Jean-Yves Le Drian, pour qui la situation à Afrin, près de la frontière avec la Turquie, et à la Ghouta, près de Damas, laisse présager que le pire en Syrie est devant nous.
Et oui, monsieur Le Drian, qui doit se rendre à Moscou puis à Téhéran pour parler de la Syrie, mais il faut bien dire, Nabila, que tout le monde semble impuissant dans cette crise.
Oui, en 2011, la guerre en Syrie a d'abord été celle d'un régime autoritaire contre son peuple, donc celle d'une armée syrienne qui, à coups de massacres, de bombardements aériens, d'offensives terrestres, d'utilisation d'armes chimiques, a réduit en ruines la plupart des villes rebelles pour en reprendre le contrôle petit à petit dès qu'il y a eu l'entrée en lice et donc le sérieux coup de pouce de la Russie, autre soutien de Damas avec l'Iran. Le conflit s'est donc complexifié avec l'implication des puissances régionales et internationales et aujourd'hui, le régime syrien semble surtout profiter ou du moins tester les limites de la diplomatie internationale, incapable concrètement d'imposer des trêves, d'arrêter des crimes de guerre en Syrie ou de respecter les propres lignes rouges qu'elle s'est fixées.
Merci Nabila Hamel. Retour vers notre invité Hugo Bernalici, toujours en compagnie d'Antoine Marette devant le Conseil d'État. Antoine, c'est à vous.
Bonjour Hugo Bernalici.
Bonjour.
Alors ce texte, la droite le trouve pas assez ferme, la gauche pas assez humaniste. On pourrait dire, à la lumière de ses réactions opposées, que c'est un texte équilibré.
Oui, mais c'est le même sketch qu'on nous a présenté pendant la loi antiterroriste, sauf que moi, le point de vue que je défends, il n'est pas de dire ce texte est pas assez humaniste. C'est pas le sujet. Ce que je vous relatais tout à l'heure, ce sont les professionnels, encore une fois, du droit d'asile qui le disent. C'est pas les propos du député France Insoumise. Effectivement, nous, on a un certain nombre de propositions. On les mettra sur la table dans les jours qui viennent dans un document qui recensera toutes nos propositions alternatives. Et effectivement, on pense que y a moyen de faire différemment dans ce pays sur les questions d'asile et d'immigration.
L'humanisation prônée par le rapport Taché, vous n'y croyez pas?
Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'à un moment donné, c'est l'humanisation pour qui? Pour ceux qui auront réussi à franchir toutes les étapes, toutes les barrières. J'entendais tout à l'heure l'interlocuteur, monsieur Leski, l'autre invité, dire que j'allais un peu trop loin en disant qu'il y aurait plus de droit d'asile. On ne dit pas qu'il y aura plus de droit d'asile, évidemment, il y aura toujours du droit d'asile. Ce que disent les professionnels, c'est que ce sera
plus compliqué de faire valoir ses droits et que de facto il y aura des gens qui passeront à la trappe et qui seront expulsés alors qu'ils ont le droit à l'asile. Et on met un camouflet sur tout ce qu'on appelle les migrations dites économiques, hein, qu'on dit pudiquement, qui sont des gens qui quittent leur pays parce que c'est plus possible de vivre chez eux correctement et dignement dans leur pays. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, ce qu'on propose, c'est de s'attaquer véritablement aux causes des migrations. Parce que tant qu'on s'attaque pas aux causes des migrations, on sera dans cette perpétuelle.
Il faut s'attaquer aux conséquences.
Oui, et s'attaquer aux conséquences, c'est mettre les moyens pour accueillir les gens. Une fois qu'ils sont là, on s'en occupe. Toute cette énergie qu'on passe à les renvoyer dans leur pays quand c'est possible, on serait bien plus fondé à la mettre dans l'accueil. Et pour le coup, ça, le rapport Taché, il vient m'aider dans ce sens argumentaire. Mais dites-vous bien que c'est pas le propos de la France insoumise. Je voyais qu'on voulait nous cornériser en disant oh, il y a le Front National d'un côté, la France insoumise de l'autre. Dites-vous bien qu'il y a une trentaine, et j'espère bien plus, de députés de La République En Marche, pas de La France Insoumise, de La République En Marche, qui sont en train de s'opposer frontalement à ce texte. Pas des amendements de repli pour aménager ou pour humaniser le texte, pour dire ce texte n'a rien à faire sur la table. D'ailleurs, de quand date le dernier texte en la matière? Il date de 2016. C'est pas, on n'a pas réformé le droit d'asile depuis, ça fait 50 ans, il faudrait dépoussiérer. Non, c'est 2016.
Il y a des liens qui pourraient se créer à l'Assemblée nationale avec ces députés rebelles en marche?
Mais il y a déjà des liens. Dites-vous bien qu'il y a déjà des liens, et dans l'hémicycle, les liens, ils se verront, parce qu'on votera les mêmes choses à un certain nombre de moments. Et nous, on aidera ces députés de la majorité qui veulent s'opposer à ce texte, puisque nous nous y opposons nous-mêmes. Enfin, voilà, ce qu'il faut dire vraiment, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la durée de rétention, ça sert à rien de l'augmenter dans le réel, dans le monde réel. La diminution à 15 jours du délai pour faire un recours, ça va mettre plus d'obstacles, faciliter les choses. Un monde idéal, si on avait suffisamment de fonctionnaires pour accélérer les procédures de traitement dans les préfectures, dans les OFPRA et à la CNDA, mais tout le monde serait content pour que la procédure aille plus vite. Nous, les premiers. Sauf que qui a bataillé pendant le projet de loi de finances en disant qu'il n'y aurait pas assez de fonctionnaires dans les préfectures, qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans les OFPRA et les CNDA? La France insoumise, toute seule dans le désert.
Merci beaucoup. Il faut s'arrêter là. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous devant le Conseil d'État. Donc, merci aussi à Antoine Narette. On va continuer à parler du sujet. Dans une seconde, retour des éclaircies pour la météo, les températures en baisse qui iront de 3 à 19 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Brice Garcia. 18h, c'est Stanislas Vazak.